Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander gentiment de bien vouloir faire comme je viens de faire, c'est-à-dire de mettre votre téléphone sur. Alors, vous avez le choix entre ne pas déranger, mode avion, enfin ce que vous voulez, pour éviter que, surtout, une sonnette intempestive ne nous interrompe. On a le plaisir et l'honneur, je peux dire, et le privilège d'avoir sur scène de la station Ozone pour la librairie Mola, Claude Jordat. Alors, pas si on doit présenter Claude Jordat, ça serait presque injurieux de présenter Claude Jordat dans sa ville, presque on peut dire sa ville d'adoption de Bordeaux. Je crois, cher Claude, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie courante, ça sera plus simple comme ça, on fera pas d'erreur.
C'est plus simple,
C'est plus
effectivement.
simple, oui, et plus personnel aussi. Je crois que tu voulais dire quelques mots en
Oui,
introduction. Ouais.
je voudrais d'abord remercier Jean d'être là, d'avoir accepté de communiquer son virus à toute la salle. Toujours une délicate attention. Non, je voudrais surtout vous dire et dire à Denis Mola, qui a eu la gentillesse immédiate de nous prêter la station Ozone, de lui dire qu'en fin de compte, grâce à Franck Lafossas, qui est là, qui est un magistrat lui aussi, un grand magistrat, écrivain aussi, que en fait cette station, une minute, elle est située dans la rue de la Vieille Tour, parce que dans cette tour, au sommet de cette tour, il y avait un canon, et que surtout, dans cette tour, il y avait un dragon. Et que ce dragon, comme tous les dragons, il lui fallait une proie. C'était bien sûr, en général, une jeune fille. Il ne connaissait pas les courants actuels sur ce plan-là. Et que, évidemment, une fois que cette jeune fille l'avait finalement séduit, il avait demandé, et nous arrivons à Limoges, il avait demandé que par six portefaix, les portefaix, c'est comme des esclaves pratiquement, on aille à Limoges chercher ce qu'on appelle le bâton de Saint-Martial, qui était célèbre abbaye, prestigieuse abbaye de Limoges. Et que effectivement, cette relique était tellement précieuse que pendant très longtemps, elle a été dans la crypte de Saint-Seurin. Voilà. Donc, on est revenu à Limoges. Et si Denis Mola, mon cher confrère, était là, eh bien, je serais très heureux de lui renvoyer cette image de cette rue prestigieuse et ancienne de la Vieille Tour.
Bien, ben merci pour cette référence. Je crois que c'est la première fois, en tous les cas pour les invités que j'ai eu l'occasion de présenter, qu'on rentre un peu dans les secrets de la Vieille Tour. On va peut-être démarrer pour la présentation de ce livre. Donc, c'est un roman dont le titre est Une vie jetée à l'encan. On va revenir sur le titre un peu plus tard. Mais il se trouve que l'éditeur s'appelle Lucien Souny. Alors, Claude, tu ne l'as pas connu, mais c'est une maison d'édition locale, en fait, hein, à Limoges. L'éditeur est décédé le 24 décembre, dans la nuit de Noël 2014, à l'âge de 67 ans. Et ce sont ses deux collaborateurs qui ont repris cette maison d'édition. Il se trouve que dans la maison d'édition Lucien Souny, la collection s'appelle Le Chant des Pays.
Oui, tout à
Hein,
fait.
c'est
Tout
un
à
beau
fait.
titre, hein, qui nous renvoie peut-être aussi au livre. Alors, je vais peut-être, si tu veux bien, lire justement la note de l'éditeur, parce que ça permet de planter le décor, ou si on veut, la toile de fond. Et vous verrez pourquoi je parle de toile de fond. Alors, je cite l'éditeur. Pour commémorer les 60 ans du martyr d'Oradour-sur-Glâne, un peintre, Émile, est chargé de la réalisation d'une fresque pour le musée. Il chute de l'échafaudage qu'il avait installé et il entre dans un coma profond. Des images de son enfance à Paris s'entrechoquent, ce qui va s'apparenter à un rêve, lui fait voir de façon étrange un de ses tableaux. Donc ça, c'est le décor. C'est comme ça, quelque part, que l'histoire s'amorce. On va d'abord un peu s'intéresser au personnage. Le premier, c'est Émile. Alors, Émile, c'est le peintre. Il s'appelle Émile Chapira. Il est professeur à l'École des Beaux-Arts de Limoges. Il est plutôt jeune, puisqu'il est né en 1933. Sa renommée est plutôt locale, mais il ne vend pas ses toiles, ou alors fort peu. Il a 11 ans. Le 10 juin 1944, alors s'il y en a qui s'intéressent à l'histoire, Parmi vous, vous pouvez me dire évidemment que le 10 juin 1944, c'est pas très compliqué, ça c'est 4 jours après le débarquement en Normandie, mais c'est surtout la date du massacre de Radour-sur-Glane. Et Radour-sur-Glane tient une place importante, on y reviendra dans le roman. Claude, est-ce qu'on peut dire de Chapira, d'Émile, que c'est un peintre qui aurait pu être connu et qui est mal dans sa peau d'être un peintre inabouti?
Oui, Émile est un peintre inabouti, je reprends ton expression, mais c'est un peintre qui a une renommée locale. Et dans le roman, on va voir qu'autour de notre tableau dont nous allons reparler, c'est vrai qu'à ce moment-là, il va se révéler à lui-même, au fond, sur le côté moyen de sa carrière, bien entendu, et c'est à partir du rêve, et de la mémoire qui va lui revenir, qu'à partir de ce moment-là, va réémerger en lui des événements très douloureux. Ça sera donc un tableau.
Voilà, alors on va revenir sur ce tableau qui est, on pourrait presque dire d'ailleurs, le personnage central. Hein. Enfin, il y a plusieurs tableaux, hein. Vous verrez, parce que tout ça est très imbriqué, en quelque sorte. Et puis, alors, il y a l'épouse d'Émile, donc elle s'appelle Marianne. Ils forment un couple bizarre, on peut presque dire paradoxal. Moi, ça m'a fait penser à un film de Pierre Granier de Fer, 71, s'appelle Le Chat.
Ah, avec Simone Signoret, non ?
Gabin et Simone Signoret.
Tout à fait. Oui.
Et c'est drôle parce que tu n'as pas pensé en l'écrivant à ce film, hein, ou à ce personnage. Dans ce film, je raconte, il s'appelle Bouin, Jean Gabin et Simone Signoret. Ça fait 25 ans qu'ils vivent ensemble dans une espèce de huis clos à Courbevoie.
Courbevoie, oui.
Et 25 ans de mariage. Elle a été trapéziste. Et puis, elle a eu un accident. Elle est tombée, non pas d'un échafaudage, mais elle est tombée du trapèze. En fait, ils vivent ensemble, mais quelque part, ils se détestent assez copieusement. Et Gabin va trouver un chat. Et il va reporter toute son affection sur le chat. Et elle, Simone Signoret, va tout faire pour détruire cette affection. C'est un film terrible, hein, dans une espèce de huis clos terrible. Alors, c'est pas ça la relation entre Marianne et Émile. Ça atteint pas cet acmé un peu d'amour-haine. Mais quand même, elle va jouer un rôle au moins essentiel dans la première partie du roman. Et je crois qu'il faut dire pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'elle va vivre pendant qu'il va être, pendant 4 mois, dans le coma, Émile?
Oui, Jean. Le coma va durer 4 mois. Et c'est dans la phase de pré-réveil que va émerger en lui d'autres éléments dont nous parlerons certainement. Mais Marianne, quand même, pendant 4 mois, a été une accompagnante très dévouée. Et c'est elle qui a organisé cette exposition, parce qu'ils avaient besoin d'argent, bien entendu. Et elle va organiser l'exposition de tous ces tableaux, de ce peintre qui finalement est un peintre de province, de qualité, pas de renommée en tout cas, c'est certain. Et donc, ensuite, quand lui va sortir de l'hôpital, il va être guidé dans les premiers pas, j'allais dire, de sa vie renaissante, il va être guidé par Marianne, mais à ce moment-là, dans ce couple, va se constituer un déséquilibre. C'est-à-dire qu'au fond, implicitement, elle lui fait toujours comprendre qu'au fond, oui, elle a fait beaucoup pour lui. Et lui, à la faveur d'un autre événement, qui va être le cimetière, vous pouvez acheter le livre quand même, c'est pas un livre policier, je vous le dis tout de suite, mais il va se constituer en lui, en Émile, l'idée d'autre chose que de reprendre, d'autre idée que de reprendre, en fin de compte, la vie qu'il avait avant son coma. Non, pas du tout envie. Et donc, le couple va être déséquilibré. J'allais dire, si je voulais faire une allitération, je pourrais dire qu'autant de déséquilibre que lui quand il est tombé de son échelle en essayant d'esquisser une fresque dans le mémorial de Radour-sur-Glane.
Alors, on ne va pas faire de clinique ou de neuro-psychologie, comment tu t'es intéressé à cette phase de pré-réveil, de sortie du coma, parce qu'il semble qu'il se passe des choses terribles dans ce moment, puisque quelque part, Émile comprend qu'il a dit à Marianne. D'abord, elle lui fait comprendre, elle a tout noté sur un cahier,
tout noté,
des bribes. Hein, il se demande bien ce qu'il a pu lui dire.
Oui, tout à fait.
Et elle se sent, elle lui fait comprendre qu'elle a su des choses et qu'il lui a dit des choses. Ce qui crée une espèce de secret assez terrifiant. Hein.
Je ne sais pas si Pierre Granier de Fer reprendrait, s'il vivait bien sûr, reprendrait sous forme d'un script, mais il est exact que le couple va être déséquilibré aussi sur ce plan-là. Elle va lui faire comprendre parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'il m'a dit, et elle l'a noté. Et lui, dans cette phase de pré-réveil, je ne suis pas du tout spécialiste des comas ou sur le plan psychiatrique, mais dans cette phase de pré-réveil, lui va remonter dans son cerveau, dans sa préconscience, il va lui remonter l'image, le souvenir d'un tableau. Et le tableau, c'est vrai que c'est la, j'allais dire, la troisième mémoire, c'est un roman sur la mémoire, il va lui remonter ce troisième personnage, comme tu le disais, qui va être le tableau, qui lui-même va évoluer, comme on évolue tous d'ailleurs dans notre vie. On passe par certaines phases de la vie et tout le déroulement de notre vie. Et ce tableau lui-même va être comme un personnage. Il va évoluer à la fois dans les dialogues avec l'autre personnage, Juliette, dans les dialogues avec Marianne. Et tout ça va constituer des relations extrêmement complexes jusqu'au moment où dans les monts du Limousin...
On va y venir.
Oui, d'accord, mais... Hein oui, mais méfie-toi, tu es comme un dragon avec moi.
Alors, je reste quand même à cette relation entre Émile et Marianne. Je vais même te lire, parce que vous allez voir, il y a une vraie force dans le style de Claude Jorda. Pendant son coma, donc, Émile a beaucoup parlé, hein, Marianne a tout écrit, hein, et puis un soir, ils boivent de plus en plus, hein, il y a quand même ce côté, hein, il y a un mélange de whisky, il y a une relation sexuelle que tu décris comme de plus en plus vulgaire, en quelque sorte, hein, entre eux, bon. Un soir, elle crache le morceau, c'est le cas de le dire. Elle va chercher son petit cahier d'écolier, oui, sur lequel elle a tout écrit, des morceaux épars qu'Émile disait dans son coma. Et elle lui dit, je te cite, « Ok, mais quand tu sauras ce que je vais te révéler, tu comprendras mieux ce que je te dis. Peut-être que la mort, c'est contagieux et qu'elle est à ma porte depuis qu'elle est sortie par la tienne. Tu me l'as craché, ta mort, et j'ai avalé la salive. » Comme si je t'avais pompé jusqu'à ce que tu te vides en moi. Alors, il y a quand même une espèce de violence dans leur relation. Et elle dit aussi, ce que tu me disais dans ton coma, ça c'est page 60, ce que tu me disais dans ton coma m'aidait à comprendre au fond, ce qu'au fond tu étais, ce que j'avais été pour toi, ou plutôt ce que je n'avais jamais été pour toi. Parce que c'est cette première relation entre Émile et Marianne, on comprend aussi qu'il y a une douleur fondatrice. Faut que tu nous dises laquelle dans leur histoire.
La douleur fondatrice vient des premiers pas dans la vie d'Émile. Émile, c'est le peintre, nous sommes d'accord. Et ces premiers pas dans la vie vont se révéler à travers le roman, pouvons le dire, bien entendu. C'est la période qui va se passer entre l'âge zéro et, disons, les six ou sept premières années, qu'il passe dans le quartier du Marais, où son papa est un antiquaire reconnu, et que ce papa, ils ont fui l'occupation pour aller vers le Limousin. Et la douleur fondatrice, c'est qu'en fin de compte, à travers son réveil, à travers la façon dont il va réémerger de son coma, il va lui venir dans sa pauvre tête, j'allais dire, il va lui venir le souvenir d'un tableau, pas celui dont nous parlions tout à l'heure, d'un tableau. Et dans son regard d'enfant qu'il avait dans cette vieille voiture, cette vieille voiture, il se souvient d'un tableau et lui revient à ce moment-là, dans son réveil de coma, il lui revient le fait que ce tableau devrait, par le conditionnel, mais devrait théoriquement avoir le peintre de la Renaissance, devrait avoir une très grande valeur pour payer, rémunérer la famille du Limousin, celle de Marianne, qui va les accueillir. Et donc, la douleur fondatrice, elle est là. C'est-à-dire qu'au fond, Marianne fait partie de cette famille qui les a accueillis. Là, maintenant, elle est comme un portefeuille, j'allais dire. Elle est l'accompagnante fidèle d'Émile. Et lui, sa douleur fondatrice, c'est qu'en fin de compte, le coma lui aura révélé, d'où à un moment donné une phrase, et si la mort n'existait pas, le coma va lui révéler en fin de compte que tous ces tableaux, au fond, ça n'est pas important. Seul va être important, autre chose. Et donc la douleur fondatrice, elle est là. Et puis le couple est déséquilibré dès qu'il sort, lui, du coma.
Et il y a quand même la mort du petit Ivan aussi.
Alors il y a la mort du petit Ivan, c'est là aussi une douleur très importante.
C'est un enfant qui est mort de la mort subite du nourrisson.
La mort subite du nourrisson, tout à fait. Et cette mort, évidemment, va laisser une blessure profonde, bien sûr, chez la maman. Et lui, c'est une sorte de tremplin pour réémerger aussi du coma. Mais en fin de compte, la douleur, le déséquilibre, j'aime bien cette expression, puisqu'en fond, ça marque la vie d'Émile dans le mémorial de Radour-sur-Glane, il tombe d'une échelle, ce déséquilibre, il est là. Il est là, et peut-être que Marianne lui reproche au fond de ne pas avoir assez évoqué le petit Ivan dans cette phase de pré-réveil.
Alors, Marianne, donc, tu l'as dit, organise pour payer aussi les frais d'hospitalisation, la vente, une rétrospective, tout à fait officielle, avec la ville de Limoges, une rétrospective, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant, puisque j'ai regardé l'étymologie de rétrospective, c'est un long regard en arrière. Le problème d'Émile, c'est qu'en sortant du coma, justement, il ne peut pas regarder en arrière, puisqu'il est amnésique, ou il a, en tous les cas, des amnésies partielles, en quelque sorte. Bon. Donc il peut à la fois... Sa femme fait une rétrospection, quelque part, et puis lui, il ne peut pas faire l'introspection, d'une certaine façon. Mais est-ce que, finalement, ce que tu as voulu montrer aussi, c'est, quelque part, pour reprendre le très beau titre d'Henri Rousseau, le grand historien, à propos de Vichy, est-ce que tu as voulu parler d'un passé qui ne passe pas, aussi ?
Oui, le passé, il faut qu'il l'expurge, comme d'ailleurs... devra l'expurger Juliette, l'autre personnage dont nous allons parler. Nous allons y venir. Ce passé, il doit l'expurger. Et le coma lui permet, quand il est vraiment en réveil, lui permet de faire réémerger quelque chose de lui. Je n'y reviens pas, je l'ai dit. Mais il est exact que c'est le coma qui va tout déterminer et il va pouvoir enfin... j'allais dire, aborder une vie où c'est vrai qu'il dit à un moment donné, si la mort n'existait pas. D'ailleurs, à un moment donné, on avait évoqué comme titre de cet ouvrage, et si la mort n'était qu'un rêve.
Voilà. Alors, à propos de rêve, justement, c'est ce qu'il dit à propos du tableau Nuée, qui est le tableau, qui est d'ailleurs un des seuls qui va être vendu.
Qui n'est pas celui
de la voiture, on est bien
d'accord. N'est pas celui de la Hotchkiss qui lui réémerge dans son coma, qui est le tableau véhiculé, c'est voilà. Le cas de dire, par son papa, fuyant la famille, fuyant l'occupation allemande.
Nuée, c'est un tableau qu'il a peint, qu'il voit dans la salle d'exposition, dans une des salles d'exposition où il se rend après son retour de l'hôpital. Il voit les tableaux là, et puis il tombe sur Nuée, et Nuée. Quelque part, c'est le seul tableau qu'il voit dans tous ces tableaux. Et il dit, au début du livre, ce tableau a réveillé chez moi l'avide incursion en moi d'un tableau surgi de mon enfance de petit juif, perdu sur les routes de France et amarré en moi jusque dans ses paysages. Et finalement, son projet, ça va être, et c'est assez étonnant quand même, c'est une vraie trouvaille littéraire, ça va être d'essayer de repeindre Nuée. Voilà. C'est ça. Il a ce tableau. Il va être obsédé par ce tableau qu'il a peint. Il va chercher à comprendre pourquoi il l'a peint, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu signifier, en quelque sorte. Et il va se mettre en voyage, en quelque sorte, personnel, pour repeindre une sorte de nouveau Nuée. On pourrait presque dire que ce serait l'émergence d'un nouveau Nuée.
Oui, Jean. En fait, je crois qu'il faut en arriver aussi au regard de Juliette.
Qui est la dame qui va être, elle, devant ce tableau.
Voilà. Il se trouve que lui, il est convalescent en quelque sorte, il voit tous les tableaux de sa rétrospective, ouais, comme ouais. tu l'as dit étymologiquement, il les voit. Ces tableaux n'accueillent pas ses impressions, ne recueillent pas son idée, pas du tout. Il sort d'un coma, il refait sa vie, une vie en partie artificielle. Et il tombe dans une petite salle d'ailleurs, ouais. je ne connais pas le musée de Limoges, dans une petite salle sur ce tableau qui s'appelle Nuée, qui est de lui. Et ce tableau recueille également le regard de Juliette. Et donc, c'est pour moi, en tout cas, c'est pour moi l'idée qu'il y a un roman autour de la mémoire et qu'il y a trois personnages, comme tu le disais au début de ton intervention. Il y a Émile, il y a cette Juliette dont nous allons parler, et puis il y a ce tableau qui est comme nous tous. Ce tableau va vivre, il va avoir même des titres, des intitulés différents, et ce tableau va nous accompagner. Je ne devrais pas parler de moi, bien entendu, accompagner le lecteur jusqu'à la finitude de ce roman.
Alors Juliette, hein, puisque nous y voilà, hein, d'abord, il y a toujours, dans tes deux romans, il y a toujours une femme pleine de mystère, hein, qui est en quelque sorte dépositaire. Hein, dépositaire, on va voir de quoi, mais dans le premier, c'était Fatima, oui. là, c'est Juliette. Alors, j'avais le souvenir aussi que Fatima avait une malformation physique.
Oui.
Et Juliette aussi boite. Alors, pourquoi tu fais toujours boiter les femmes qui sont dans tes romans?
Ça, c'est une question. Je m'attendais à toutes les questions de ta part, le dragon. Mais celle-là, alors, non, c'est pas. Effectivement, Zora ou Fatima avaient une malformation. Alors, celle-là, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à la fin pour lui faire gravir les montagnes de blond, d'ailleurs, c'est vrai. Mais je pense que le mystère qui entoure Juliette, ce mystère qui la rend, en tout cas aux yeux de l'écrivain, du narrateur, aux yeux du narrateur, la rend très intelligente, puisqu'on est très mystérieux. Quand on est mystérieux, on passe pour quelqu'un d'intelligent, ou quelqu'une d'intelligent. Et au fond, je compense un peu ça en la dotant d'un petit défaut physique, quand même.
Ah mais c'est drôle ta réponse, parce que moi, je pensais que la canne devenait un accessoire, qui était un accessoire assez central, puisque à plusieurs reprises dans tes descriptions, on entend le bruit. Hein, on dit que pour écrire des livres, il faut aussi que l'ouïe fonctionne. Hein. C'est Jean Echenoz qui dit ça. Hein. Oui. Il faut écrire des livres aussi par l'ouïe. Hein. Alors je dis l'ouïe, hein, on a bien entendu. Hein, L'apostrophe au UI tréma E, pas par l'ouïe.
Oui, je pense qu'on l'entend. D'ailleurs, je te signale, c'est vrai, ta remarque est vraie, je ne la partage pas tout à fait, mais il est exact qu'à certains moments, il entend le bruit de la canne comme les bruits de la célèbre symphonie de Beethoven.
Exactement, oui, c'est pour ça que je faisais référence. Et finalement, parce que tel que tu l'as décrit, cette claudication, elle n'empêche pas de marcher, etc. C'est qu'elle a eu cet accident, hein, où elle dit qu'elle n'avait pas le sou pour se faire réparer correctement, quoi, en quelque sorte. Oui. Alors, cette Juliette, elle va jouer un rôle absolument incroyable, puisque il va la croiser à plusieurs reprises, il va pas oser l'aborder, et elle achète le tableau Nuée. Et il la retrouve dans ce fameux cimetière qui est le cimetière du Louya. Alors, il existe ce cimetière,
oui, il existe
à Limoges.
Je suis pas rentré dedans. Je crois que c'est le cimetière où il y a des mosaïques, je pense.
D'accord. Alors, on va pas, faut surtout pas dévoiler le roman, mais ce qu'on comprend, c'est que finalement, Juliette va fonctionner, elle aussi, un peu comme un personnage, un peu comme dans la tragédie grecque, quoi. Hein. Elle va accoucher Émile, mais d'une manière différente, évidemment comme Ariane, mais d'une manière différente que le tableau même. Comment ?
Ils vont se croiser. Émile, pour, j'allais dire, mieux accoucher Juliette. Si Juliette doit accoucher, je reprends ton expression, elle n'est pas de moi, elle est de mon dragon, là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, Émile ne pourra avoir une relation vraie, vraie au sens banal du terme, avec Juliette que lorsque lui-même sera allé jusqu'au bout du parcours, de son parcours intérieur, qui a démarré dans le coma et dans le pré-réveil, et il ne pourra accoucher de fond de cette nouvelle vie qu'en allant dans le marais.
Voilà, c'est ce qu'il appelle le voyage juif.
Le voyage juif.
Voilà, donc c'est très, très intéressant. Il y a plusieurs pages hein, où on le suit entre la rue Pavée, la synagogue de la rue Pavée.
Il a un journal, d'ailleurs. Il fait un journal.
Il fait un journal, il écrit. Oui. Il n'a plus de relation avec sa judéité avant. Hein, c'est un juif totalement
tout à fait
laïcisé, etc.
Il se reproche même à un moment donné de ne jamais aller visiter la synagogue de Limoges, alors qu'il a été fasciné par la synagogue de la rue Pavée.
Voilà, exactement. Oui, voilà. Parce que ça lui rappelle aussi quelques souvenirs. Je reviens à Marianne, parce qu'il y a le titre du livre, à un moment, dans ce qu'elle dit, hein, toujours dans son dialogue avec Émile. Hein, il y a un moment, c'est page 61, il y a un dialogue qui est dur, qui est poignant, qui est prenant entre Émile et Marianne. C'est écrit comme un dialogue de théâtre de huis clos. Et Marianne dit « Je peux pas être plus précise, car il faut que tu saches que tout me faisait mal dans ce que tu disais. Le mort-vivant que j'essayais d'accompagner m'atteignait toujours davantage au fur et à mesure qu'il entrait dans la phase de réveil. Toute ma vie était comme jetée à l'encan par quelqu'un que j'étais censé aimer. » Alors il faut que tu expliques d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une vie jetée à l'encan, et qu'est-ce que ça veut dire jeter à l'encan ou mettre à l'encan?
Mettre à l'encan, c'est un terme qui est dans la terminologie, notamment aussi bien des commissaires-priseurs, des huissiers. C'est une vie. On fait en général ce geste quand on dit qu'on jette à l'encan, c'est-à-dire qu'on jette n'importe où et dans n'importe quelle condition. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, dans l'esprit de Marianne, c'est ça que ça veut dire. Une vie jetée à l'encan. Au fond, j'étais vulgaire, je dirais autrement, mais une vie dont tu n'as rien à faire. De ma vie, mon pauvre Émile, au fond, tu n'as rien à faire. Tu la jetterais à l'encan. C'est un terme de la vente aux enchères.
En fait. Voilà, c'est la vente aux enchères. Oui. Et généralement, quand on met à l'encan, en latin, ça veut dire incantum, pour combien, et c'est pas cher, hein, vraiment.
Ah, tout à fait.
Le pire, c'est la vente à la bougie, mais la mise à l'encan, c'est vraiment pas cher.
Oui, pas cher, oui.
Donc c'est effectivement parce que une vie de rien. Hein. Alors, tu disais au début, Émile tombe de son échafaudage, pardon, en essayant de faire une commande, de répondre à une commande, qui est une fresque pour Oradour-sur-Glane. Oui, alors, quelle est la fonction d'Oradour-sur-Glane dans le roman, et pourquoi tu as voulu mettre en scène quelque part, même si on n'est jamais à Oradour-sur-Glane, on n'y met pas les pieds à Oradour-sur-Glane, mais on a les ruines, on a la mémoire du lieu. Qu'est-ce que c'est la symbolique de Radour dans ton...
D'abord, il faut savoir que pour les Limougeaux et les Limousins, c'est Oradour-sur-Glane, c'est quelque chose non seulement de très sensible, mais de très sacré. C'est un massacre comme celui de Brive, c'est la division d'Asreich qui remontait de France. La guerre était perdue, nous sommes en 44.
Non, on est oui, enfin, elle est pas
là pour Oradour-sur-Glane.
C'est 10 juin 44, hein,
oui, 10 juin 44.
Hein, donc,
la division d'Asreich remonte certainement pour se replier. Et à ce moment-là, il brûle tout, il massacre tout. Et c'est vrai que tout ceci, vous le trouverez dans le livre d'histoire, la population est ramassée, s'il n'y a pas d'autre mot, femmes, hommes, enfants.
654 victimes.
Comment là ?
654
victimes. 654 victimes dans une église dont il reste d'ailleurs uniquement les absides et les pans extérieurs. Et tous ont été massacrés, brûlés même. Hein. Alors c'est vrai que dans ce roman, voilà, puisque je réponds à ta question, c'est vrai qu'il y avait... Chez moi, l'idée, peut-être parce que je suis allé à Limoges donner quelques cours, il y avait l'idée qu'au fond, Oradour était un peu la symbolique de ce qu'avait été l'histoire de la France, et autant l'histoire de la démarcation. Le Limousin est démarqué, c'est pour ça d'ailleurs que la famille d'Émile redescend vers le Limousin avec un secret qu'il ne dévoilera qu'à la fin, à Juliette. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a la ligne de démarcation. Et d'ailleurs, quand il va refaire, donc au Radour, c'est quelque chose de très sensible. C'est comme en pays catalan, le camp de Rivesaltes. C'est comme le martyr des Brivistes aussi à Brive, hein, ou à Tulle.
C'est Tulle.
Donc il y a eu comme ça des Velmania, en pays catalan, des villages martyrs, qu'on appelle des villages martyrs, où les populations ont été prises de court. Et d'ailleurs, il y a toujours les ruines d'Oradour-sur-Glane, et il y a un Oradour-sur-Glane moderne qui a été reconstruit juste à côté. Et donc, c'est vrai que, pour répondre à ta question, Oradour était pour moi la symbolique du massacre désespéré des Allemands, désespéré entre guillemets, bien entendu, des Allemands qui remontaient, laissant cette fameuse ligne de démarcation, laquelle d'ailleurs va jouer dans la recomposition du tableau. Le tableau recomposé aura toujours une ligne qui va évoluer et qui jouera d'ailleurs un rôle dans la recomposition par un procédé assez révolutionnaire qui existe.
Mais ça, on va pas dévoiler cet aspect-là. Alors, c'est vrai que la démarcation, on voit bien que c'est au propre comme au figuré, puisque à côté de Radour, donc Juliette et Émile ont toute une espèce d'itinéraire initiatique dans le Limousin tellurique. Et c'est là que ça devient presque un roman fantastique, parce que ils vont sous l'orage, etc., sous les nuées de l'orage. On a toujours cette thématique-là, sous un ciel noir d'orage. Ils vont se retrouver, entre autres, dans les monts du Blon, auprès d'une pierre qui s'appelle la pierre branlante. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est un dolmen, c'est ça?
Alors, c'est dans le paysage néolithique qui est très important pour les Limousins, mais pour les Français aussi. C'est un paysage fantastique, surtout lorsqu'il y a un orage, il y a souvent des orages. Et la pierre branlante, ou la roche branlante, mais souvent la pierre branlante, est un immense dolmen de peut-être plusieurs dizaines de tonnes et qui repose pratiquement sur une petite arête. C'est comme si on imaginait la pierre comme ça, et ça repose sur une petite pointée d'arête. Alors évidemment, les monts du Blon sont imaginaires, sont très importants pour les Limougeaux, et cette pierre branlante va être évidemment le siège d'un culte dévotif extraordinaire. C'est-à-dire que les couples y montent, il faut y monter quand même à la pierre branlante, ils y montent le jour de leur mariage pour se souhaiter le maximum de bonheur. On vient implorer la divinité pour sauver...
On va des enfants.
Les enfants, par exemple, le petit Ivan, l'avait-il fait, je ne sais pas. Donc c'est une pierre qui est magique au sens presque étymologique du terme, et c'est une pierre... Si vous allez dans, il y a même un circuit touristique pour aller à la pierre branlante, et il est de bon ton, je dois dire, de la toucher. Alors, je sais pas ce qui peut arriver après, mais on touche la pierre branlante et on invoque, on implore. Et d'ailleurs, les cultes jouent un rôle important dans cette marche initiatique de Juliette et Émile, alors qu'ils ne sont pas du tout, chrétiens. Ils passent devant une petite chapelle et même se retrouveront près de l'église qui est très réputée, l'église de Cieux.
Avec un nom qui ne s'invente pas.
Mais
qui existe réellement.
Mais qui existe
la commune de Cieux.
L'église de Cieux existe.
Voilà, l'église de Cieux existe. Alors, Juliette est juive, elle a un nom juif de Bohème-Moravie, elle s'appelle Miesel ou Miesel, M-I-E-S-E-L. À un moment, page 110, tu écris, Émile se demande si la dame, Juliette, n'est pas l'ange de la mort.
Honnêtement, je ne me souvenais pas avoir écrit ça, mais je pense que cette phrase vient du fait que plusieurs reprises avant, il a été fasciné, Émile, parce qu'il allait au cimetière de Louillat, et il était fasciné par cette femme qui était, en général, toujours figée, devant la tombe de Misèle. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a su, le nom de cette femme. Et donc, ne pouvant pas l'approcher, n'osant pas l'approcher, il pensait que à partir de ce pré-réveil, de ce réveil, elle était comme destinée soit à lui faire peur, soit à l'effrayer, en tout cas, peut-être lui précipiter vers cette mort à laquelle il avait échappé à partir de son coma. Et c'est pour ça que j'ai donc inscrit qui lui paraissait être l'ange de la mort.
Alors, je reviens sur le voyage juif à Paris. En te lisant, je pensais irrésistiblement à Ferrat chantant Aragon. Parce que d'abord, Ferrat, son vrai nom, c'est Jean Tenenbaum, et son papa est mort à Auschwitz. Et Ferrat reprend un vers d'Aragon, il dit « Nul ne guérit de son enfance ». Et d'ailleurs, dans le livre, tu fais référence à la petite église de Saint-Méry, oui. Et c'est dans un autre poème d'Aragon à propos de Desnos. Oui. Hein. Mais est-ce que Claude Jorda a guéri de son enfance ?
Écoutez, je crois qu'il y a peut-être quelques personnes qui pourraient éventuellement dire si j'ai, semble-t-il, guéri de mon enfance. Alors, si on a lu, et tu sembles avoir bien lu, le premier roman, tu as dû constater qu'effectivement, je n'avais pas tout à fait guéri de mon enfance, puisque j'ai moi-même connu la Seconde Guerre mondiale, ça c'est vrai. Et en plus, fils direct d'un poilu, qui m'a, je dois dire, mes frères et moi, nous a dorloté au souvenir de la guerre de 14-18, et nous ne pouvions pas faire une référence aux Allemands, c'était toujours catastrophique pour mon papa, qui avait été blessé, évadé, etc. Je suis un enfant de vieux, donc c'est pour ça que j'ai connu directement un poilu qui était mon papa. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, oui, moi je trimballe quelque chose de mon enfance, notamment l'Algérie, qui est un
voilà. Alors, un pays. Ça, c'était le premier roman qui était beaucoup plus autobiographique. Celui-ci, c'est vraiment pour une fiction. Oui, hein, il n'y a pas d'attache particulière avec le Limousin.
Non. J'ai une assistante, d'ailleurs, qui un jour m'a dit, mais est-ce que c'est un vrai roman? Je lui ai dit, oui, c'est un vrai roman. Vous n'y trouverez pas tout ce que vous attendez, peut-être, d'un vrai roman. Sur le plan, je ne sais pas, vous pouvez imaginer. Et j'ajoute toujours que je ne saurais pas faire de roman policier, ni de poèmes, ni de nouvelles. Par exemple, il faut que je puisse m'exprimer dans, pas forcément 240 pages, mais...
Alors, tu dis ça, mais en même temps, à plusieurs reprises, en particulier, tu fais référence, alors sans le dire, à Stefan Zweig. Tu parles de la confusion des sentiments.
Oui, tout à fait.
Tu dis, Marianne et Émile sont en pleine confusion des sentiments.
Tout à fait.
Quand ils sont dans le petit bar, là, pour écouter la musique de la guinguette, là.
Voilà.
Donc ça se fait quand même référence à un auteur de nouvelles par excellence. Hein. Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, pour le problème d'Émile, c'est une question pour retrouver son identité, puis ensuite refaire sa propre identité depuis ce coma. C'est vrai que, par exemple, les nuits de Noël, il va dans les églises, il écoute ça, fasciné par les chants, et il se sent étranger à à ce que véhicule, en fin de compte, une église, et en même temps, fasciné.
Oui, c'est ça qui est... Alors, dans le... Enfin, on va donner la parole à la salle. Hein. Mais je voudrais terminer en évoquant quelque chose qui m'est apparu dans ton texte. C'est un livre où il est énormément question, bien sûr, d'ombre, de nuée et de nuit, mais aussi, évidemment, de lumière, hein, totalement. On pourrait presque dire que, d'ailleurs, et même la couverture est intéressante parce qu'il y a ce carré de lumière là qu'on voit dans la photo noir et blanc qui va tout à fait.
Alors c'est d'ailleurs le tableau qu'il refait quand il croit refaire nuée, qui
s'appelle ombre et lumière. Et puis après ça va s'appeler la trace méditative. Hein, voilà. Mais moi j'ai compté 7 personnages qui se croisent en fait et se recroisent et se décroisent. Alors j'ai pas compté dedans nuée, hein, parce que nuée ça serait quelque part la lumière, hein, mais tu vas voir. Et finalement, ces 7 personnages, ce sont de cette branche de la Ménorah. Hein. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes à quelques jours d'Hanouka. Alors, il y a Émile le peintre, oui. Marianne l'épouse, Juliette la dame, Julien l'élève, oui. qui va lui succéder oui. au Beaux-Arts, qui joue un second rôle, mais essentiel. Oui, hein. oui. Gilles le médecin, Gilles Simon, hein, qui va devenir un ami. Yvan, donc le fils d'Émile et Marianne, et puis Patrick, le fils de Juliette. Et ça, ça fait 7 personnages. On dirait quelque part que le récit s'articule autour de ces 7 branches, en quelque sorte. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de référence à une Ménorah narrative, sachant qu'il faut savoir quand même que l'étymologie de Ménorah, c'est celui, ça veut dire celui de qui provient la flamme, hein. Et la flamme, évidemment, dans la Kabbale, c'est la présence de Dieu. Donc c'est un livre qui serait quelque part un livre sur la lumière qui peut éclairer finalement l'histoire des individus, non ?
Alors effectivement, je ne pensais pas avoir donné autant d'importance aux 7 personnages. Mais puisqu'il y a, comme dans les sports, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est vrai que dans la Ligue 2, je mettrais le docteur Simon. D'accord. Docteur Simon, qui est le psychiatre, psychanalyste, il faut savoir qu'à Limoges, non, il y a une unité spécialisée.
Oui, enfin, il est aussi neurochirurgien au CHU de Limoges. Hein.
Ah, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Et encore une fois, il y a une unité spécialisée ouais. dans la neuropathologie ouais. À Limoges. Donc, je le fais rentrer dans cette unité. Le docteur Simon, donc, va jouer un rôle non seulement dans la phase de pré-réveil, mais dans un dialogue plus qu'amical, un dialogue, j'allais dire, à la fois médical et en même temps qui va dépasser l'ami à travers la culture que Émile et Gilles vont, j'allais dire, se véhiculer, s'entrecroiser les uns les autres. C'est pour ça que moi, je vais personnellement, docteur Simon est un personnage que j'ai inventé, mais qui m'a toujours fasciné.
Et tu le mettais comme un personnage un peu secondaire?
Non, toi tu les mets tous à égalité, les 7.
7 branches pour moi.
Oui, d'accord. Alors, hein. il y a effectivement des personnages que j'assume totalement. Il y a notamment
Marc et Élise, par exemple. Ça, c'est des personnages secondaires.
Ça, c'est vraiment secondaire.
C'est les frères. C'est la sœur d'Émile.
Oui, Élise est la sœur d'Émile. Et avant qu'il n'entame ce voyage initiatique, ce voyage juif, donc. Dans le quartier du Marais, c'est vrai qu'il va voir Élise, et d'ailleurs il essaye de recueillir d'Élise et de Marianne tous les souvenirs de son enfance, de cette famille qui était descendue du Paris occupé vers le Limousin libérateur, en quelque sorte.
Voilà, donc tu vois, ça pouvait être le chandelier à cette branche. Hein, voilà. Ça serait un autre titre ou un sous-titre. Voilà.
Ah, il y en avait beaucoup de titres, je dois dire.
Je crois qu'on peut applaudir Claude Jordat.